Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Laurent Dandrieux avec vous, bien sûr, au 32-16 et sur l'application RMC pour agir à notre dernier débat. Et le ministère de l'économie qui souhaiterait pouvoir collecter des infos sur les contribuables sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Est-ce que c'est logique ou choquant? On attend vos réactions au 32-16 ou sur l'application RMC. 14h30, ne ratez surtout pas, RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabas qui va tenter d'aider un village entier. Ce village est infesté de mouches, mais ça fait 10 ans, à cause d'un élevage de poules. C'est une sombre affaire. Et puis peut-être qu'on ouvrira le coffre RMC, Rémi.
Oui, parce qu'à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 73216. Si vous êtes sélectionné, alors vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et avec le rétro-projecteur portable. Et à ce moment-là, vous avez le choix. Vous gardez ce très beau cadeau ou alors vous y renoncez et vous pouvez alors ouvrir le coffre RMC. À l'intérieur, soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four, un mini pizza et un mini bar. Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Vous envoyez coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi à la proposition du jour. C'est celle du ministère de l'économie qui souhaiterait que le fisc puisse accéder aux informations privées des contribuables sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. En clair, que les agents du fisc puissent créer des faux comptes pour espionner les Français, Rémi.
Exactement, c'est le souhait exprimé dans un récent rapport portant sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Rapport rédigé par des sénateurs. Parmi les outils déjà utilisés par le gouvernement, tout le monde ne le sait peut-être pas, que le texte propose donc d'amplifier, bien la collecte des données sur les réseaux sociaux par le fisc. Il faut savoir que depuis l'adoption de l'article 154 de la loi de finances de 2020, eh bien, le fisc peut, alors pour une durée limitée, pour l'instant c'est jusqu'en 2024, collecter les données qui sont librement accessibles sur les réseaux sociaux. Ce peut être, par exemple, le cas d'un Français qui s'affiche sur Instagram dans sa nouvelle piscine.
Ou avec alors, une Ferrari.
Ou alors qu'il a omis de déclarer l'existence de cette piscine aux impôts et que, normalement, bah, vous devez payer une taxe sur votre piscine. En tout cas, le Sénat juge que cette procédure n'est pas encore suffisante. Parce qu'aujourd'hui, un agent du fisc, n'a pas le droit de créer un faux compte sur Instagram, sur Facebook ou un autre réseau social pour voir ce que vous mettez comme photo. Pour l'instant, il ne peut voir que les photos qui sont publiques, voilà, sur Internet.
Et donc, si c'est un compte privé, il ne peut rien voir?
Absolument. Sauf que les sénateurs voudraient que ces mêmes agents du fisc et d'ailleurs des douanes puissent créer de faux comptes. Vous demandez comme ami, par exemple. Dites, bah oui, pourquoi pas.
Oui, allez t'espionner, quoi. Dis les choses clairement.
Et voir quels sont contenus exacts de vos photos que vous publiez.
Alors, est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant? Faut-il autoriser le fisc à espionner nos réseaux sociaux? Je commence avec vous, Laurent Dandrieux.
Alors, moi, j'avais pas compris qu'il s'agissait effectivement de faire des faux comptes.
Ah, bah si.
Vraiment, ouais, ça me l'a
dit. Ah, ça vous gêne.
Ah, c'est le vice, hein.
Bah oui, je trouve que, effectivement, à partir du moment où on est juste dans le constat des signes extérieurs de richesse, en fait, bon, ça s'est toujours fait, effectivement, avec les réseaux sociaux, ça prend une dimension nouvelle. Mais là, en fait, ce serait valider une forme d'imposture de la part du fisc. Du coup, je suis ton pote et en fait, non, je suis ton ennemi. Je trouve ça moralement douteux, moi.
Thierry Moreau, vous, ça vous gêne pas, quoi?
Pas du tout.
Ah,
je trouve ça très bien. Je trouve qu'aujourd'hui,
il y a rien à cacher,
un imbécile, qui se montre justement, parce que ça va pas être pour récupérer 3 francs 6 sous sur quelqu'un qui se montre dans sa piscine. Mmh. Ça va être le type qui se montre avec 3 voitures de luxe, machin, et qui touche
ça par ailleurs le RSA. Quoi.
Ça va être pour les gros fraudeurs. Faut quand même rappeler que la fraude, au minimum, c'est entre 60 et 100 milliards d'euros par an, fourchette basse. Alors que la fraude sociale, par exemple, c'est entre 14 et 40. Donc, on est vraiment sur des montants assez énormes qui feraient du bien au budget de l'État. Après, il n'est pas forcément bien employé, le budget de l'État. C'est un autre sujet.
C'est une méthode.
Mais en tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, les policiers chargés de la lutte contre la drogue, ils peuvent provoquer des deals et arrêter des gens en ayant provoqué des dealers.
Bien sûr,
ça fait beaucoup de débat à l'époque.
Ça fait FBI.
Ça a été mis en place.
Bah oui, mais
maintenant, c'est rentré dans les mœurs de la criminalité américaine et de la lutte contre la criminalité américaine. Je ne trouve pas ça choquant du tout. Évidemment, faut que...
Tous les moyens sont bons, quoi, pour toi, donc.
Ah, pour c'est ça lutter que tu veux contre dire. Le crime, oui.
Je suis
jusqu'à le provoquer.
C'est un délit.
C'est aberrant.
Mais c'est pas un crime.
Ben c'est pénal.
Oui, mais d'accord, mais
au certain.
Est-ce que vous imaginez, mais franchement, est-ce que vous imaginez par exemple que Bernard Arnault, je veux dire,
Bernard Arnault poste
des photos. Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Bernard Arnault, il fraude pas le fisc.
Il va récupérer combien?
Mais c'est le dealer qui brasse un million de cash tous les mois.
Il va récupérer combien avec ça?
En Porsche et qui déclare un RSA et qui en plus frime avec ses billets sur internet.
Ah oui, oui.
Voilà, c'est tout.
Non, mais là-dessus, t'as pas de dealer, Thierry.
La police peut l'arrêter avant le fisc, tu vois. Enfin, je sais pas.
Non, mais Estelle.
Capone est tombé pour fraude fiscale.
Mais bien sûr.
Ça, c'est marrant parce que justement, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai pensé à Elliot Ness, les incorruptibles. C'est marrant que tu parles d'Al Capone. Bon, mais j'avais entendu déjà l'étape, je crois que Rémi en a parlé, du drone pour repérer les piscines.
Ouais, non, j'en ai pas parlé. Ça existe depuis longtemps.
Ça existe,
ouais. Les piscines, ouais. Et les vérandas.
Les drones.
Ah, bah oui, les vérandas aussi.
Ouais.
Ah oui.
Parce que c'est un signe extérieur de richesse.
Ah,
non, mais il y a une taxe sur les vérandas.
En fonction de la surface.
Ah, je pensais que c'était devenu un signe extérieur de richesse, la véranda.
Pour
la piscine, un peu plus déjà. Donc j'avais entendu parler de ça. Là, c'est une étape supplémentaire. Je suis un peu entre vous deux.
Je t'en prie.
Tout de suite.
Donc aujourd'hui, des jeux
de. Bon, allez.
Bon.
Non, la création du faux compte pour aller berner le mec. Ça me laisse un petit goût bizarre dans la bouche, mais bon, après Thierry a raison.
Ça s'appelle de l'arnaque en fait.
Non, comme il dit, c'est vrai, aux États-Unis, tu le fais, ça, tu reçois le mec, vas-y, balance-moi l'autre, et ça atténue ta peine, ouais, les indices.
Parce qu'on a envie d'aller vers ça, quoi. Moi, j'ai pas du tout.
Là, c'est
ça permet de choper des gars qui fraudent énormément le fisc, Laurent. Tiens, le problème, c'est la fraude du fisc, ça paraît toujours quelque chose de moins grave que la délinquance, on va dire, plus classique. Oui. Mais les mecs qui fraudent comme ça de façon grave, bah, pourquoi ils se feraient pas choper si tous les moyens sont bons pour les choper?
Moi, j'étais un peu contre, et que maintenant Thierry Moreau a donné comme argument pour, finalement, c'est un peu la même chose que, effectivement, les flics américains qui ont le droit de provoquer des délits pour pouvoir les punir après. Alors là, je suis carrément contre parce que je m'aperçois qu'on met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux.
Ok, mais alors quand un flic se déguise en civil pour te berner, en fait, en quelque sorte.
Ben, moi, je trouve ça extrêmement douteux.
Ah, d'accord. Les flics donc, en civil. Les voitures en civil sur le périphérique qui flashent les gens.
Moi, je trouve ça extrêmement douteux. Je trouve qu'effectivement, la force publique devrait assumer le fait qu'elle est la force publique.
Notre invité sur ce débat, c'est Raphaël.
T'as quand même le droit de te cacher les planques, ça sert à quoi alors?
Excusez-moi, vous en fichez de ce que je pense.
Non, pas du tout, Estelle. Vraiment pas. Mais là, c'était. C'était pour mesurer l'impact de sa dernière phrase.
Non, mais taisez-vous. Juste, je voudrais qu'on ait Raphaël Grably. C'est notre invité. Et on est très content d'avoir Raphaël avec nous, qui est bien sûr rédacteur en chef BFM Tech. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
Bonjour.
On parle de cette loi et c'est vrai que c'est quand même étonnant que le ministère de l'économie veuille aller jusque-là, quoi. C'est-à-dire créer des faux comptes pour traquer les fraudeurs.
C'est un rapport du Sénat. Ce sont des sénateurs qui proposent.
Alors, c'est un rapport du Sénat. Alors, en fait, pour préciser les choses, ce qui se passe actuellement, c'est que pour analyser ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il faut qu'il n'y ait pas besoin de créer un compte. Or, aujourd'hui, en fait, si vous vous connectez sur Facebook, mais vous n'avez pas de compte, en fait, vous avez que la page d'accueil de Facebook. Donc, vous pouvez juste pas du tout regarder Facebook. Et en fait, ce que propose le Sénat, c'est simplement d'autoriser les agents du fisc à créer un compte pour ensuite arriver sur Facebook. Par contre, on parle pas forcément d'aller ajouter quelqu'un en ami pour aller voir son profil. Donc, c'est vraiment, en gros, simplement pouvoir accéder aux réseaux sociaux qui demandent de créer un compte pour accéder simplement au fil. Sinon, on n'est que sur la page d'accueil de Facebook. Il n'y a que la page pour s'inscrire. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et après, il faut quand même rappeler un truc. C'est qu'on parle uniquement de données qui sont publiques. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller piéger quelqu'un. C'est pas d'aller demander quelqu'un en ami pour ensuite voir ses photos qu'il ne partage qu'avec ses amis. C'est vraiment simplement voir ce que les gens partagent.
Oui, mais si le compte est privé, Raphaël, imaginez par exemple, je peux très bien avoir un compte public et un compte privé. Bah oui, mais alors donc les dealers dont parlait Thierry, s'ils se mettent en compte privé, ça sert à rien pour le fisc.
Ah ben évidemment que ça sert.
Donc c'est pour traquer les honnêtes gens en fait.
Bah non.
Qui donc n'ont rien à cacher.
Ah bah non, parce que si c'est des honnêtes gens, après je me fais l'avocat entre guillemets du diable, mais si c'est des honnêtes gens, ils seront pas redressés, il y a pas de problème. Mais après.
Il y a des frimeurs.
Non mais après on se.
Bah c'est quand même une perte de temps.
Alors ce qui est intéressant, c'est que pour le moment l'expérimentation, ça concerne pas par exemple. Le type ou la femme qui va se mettre en scène devant une Ferrari, parce que c'est pas suffisamment, on va dire, intéressant pour être utilisé dans ce sens-là. Ce qui est utilisé, c'est plutôt, on va dire, pour regarder ce qui se passe, par exemple, sur des sites de vente en ligne, sur Le Bon Coin, est-ce qu'on va mettre des choses régulièrement en vente. C'est plutôt ça, en fait, même plus que les réseaux sociaux, en fait, qui est utilisé. C'est plus les sites de petites annonces.
Est-ce qu'on va mettre à flipper là.
Mais genre Vinted et tout ça.
Est-ce que je vais mettre un appart à louer régulièrement?
Ah,
bien sûr.
Et, et on parlait des piscines. Alors les piscines, il n'y a même pas besoin du drone en fait. C'est pas des drones les piscines. C'est simplement, il y a eu un partenariat.
C'est Google Maps.
Exactement, il y a eu un partenariat avec Google, entre le fisc et Google. Et simplement, ils ont regardé évidemment les départements plutôt dans le sud, parce que c'est là où il y a le plus de piscines. Et si je me trompe pas, ils ont repéré depuis l'expérimentation, depuis 2 ans, 20 000 piscines qui n'étaient pas déclarées, simplement en regardant Google, en regardant Google Maps. C'est des vues par satellite en fait. Il n'y a même pas besoin d'amener un drone. Mais si vous voulez, on dit les honnêtes gens, bah après, c'est des gens qui n'ont pas payé leur impôt. En fait, c'est un peu, pour moi.
Oui, d'accord, mais tu vas pas. En fait, Raphaël, le truc, c'est que là, au départ, on disait, c'est génial, on va pouvoir trouver des trafiquants qui roulent en Maserati, etc. Et non, en fait, là, on se rend compte que c'est le pauvre gars dans le sud qui a pas payé sa véranda, sa taxe véranda. Donc,
En quoi c'est moins illégal que.
Bah, il a pas et puis c'est tout, sa taxe véranda.
C'est Thierry Moreau qui a jamais payé sa piscine. Bon, bah.
Si, elle est déclarée.
Ah, ça y est.
Et pourquoi veux-tu qu'il la paye pas?
Parce qu'il la payait pas avant.
Je savais pas si elle était dans mon acte de vente. Et en fait, elle l'est dans mon acte.
Bon bah ça va, mais n'êtes plus en fraudeur.
En fait, cette histoire, c'est pourquoi c'est fait pour utiliser des algorithmes qui vont être plus efficaces ou être en complément des agents du fisc, agents du fisc qui sont un nombre limité. Et c'est vrai, aujourd'hui, on se dit, quand je dis on, c'est le Sénat ou le gouvernement ou voilà l'État. C'est il y a des tas de gens qui fraudent. On n'a pas les moyens. On n'a pas le personnel forcément, les moyens humains pour aller chercher tout le monde. On a aujourd'hui des outils qui permettent très facilement, au lieu d'aller sonner chez les gens et de demander s'ils ont une piscine, en un claquement de doigts, on fait une analyse, il y a un algorithme, il s'est repéré sur une carte, ah bah tiens, il y a un carré bleu, ça c'est une piscine. Donc l'algorithme détecte une piscine parce que c'est un carré bleu, hein, très concrètement. Il fait le lien avec le cadastre, il sait qu'il y a une piscine. Bon bah, on a tout de suite, de façon automatisée, la main sur des conditions,
des données.
Sur des situations illicites, illégales. Après, la question, c'est est-ce qu'on l'utilise ou pas? C'est une question, j'ai envie de dire, presque philosophique, mais est-ce qu'on l'utilise ou pas? Et là, en tout cas, sur les piscines, ça a vraiment porté ses fruits. Mais après, la piscine, c'est le cas le plus facile, parce que grosso modo, on demande à un algorithme de repérer un carré bleu sur une carte. C'est le cas le plus simple. Pour les vérandas, déjà, ça va être plus compliqué.
Ah, mais c'est plus compliqué, oui.
Et ensuite, pour les maisons, celui ou celle qui va construire, qui va étendre de 3 mètres carrés la maison par rapport à ce qui est prévu, etc., là, ça va être très compliqué. Donc là, on a fait le plus facile en termes d'algorithme. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Et quand on parle, par contre, des réseaux sociaux ou du bon coin ou d'aller sur les sites de petites annonces, il y a un traitement algorithmique, mais il faut aussi de l'humain derrière.
Évidemment.
Pour essayer de constater. Mais en gros, il faut pas fantasmer non plus. C'est pas parce qu'on met une photo de soi devant une belle voiture qu'on va se prendre un contrôle fiscal. Si je dois résumer, c'est pas ça.
Oui. Enfin, souvent, quand on prend une photo de soi devant une belle voiture, c'est qu'on ne l'a pas justement cette belle voiture. Donc voilà, en fait, il y a pas lieu d'être contrôlé. Reste avec nous, Raphaël. On a pas mal de témoignages et on a celui de Maurice qui nous appelle de l'Aisne. Il a pas voulu donner sa commune. Maurice, il est artisan plombier. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour. Et vous n'aimez pas du tout cette initiative du fisc, hein, Maurice?
Non, pas du tout, non. Ils n'ont pas à faire leur boulot correctement, à chercher, et puis voilà, quoi.
Bah justement, c'est ce qu'ils font, ils cherchent.
Ils cherchent mieux.
Bah non, ils cherchent pas mal, puisque justement, ils veulent mieux chercher.
Mais est-ce que vous vous fraudez, Maurice?
Ouais, complètement.
Ah bon. Mais qu'est-ce que vous avez, par exemple?
Piscine, couverte, chauffée, non déclarée, véranda, bruit de jardin.
D'accord.
Donc et voilà, quoi.
Et vous n'avez pas peur?
Pas du tout.
Bah attendez, là ils peuvent vous, enfin si jamais vous postez les photos de vous dans votre piscine ou votre véranda, typiquement sur les réseaux sociaux, ça peut vous porter préjudice.
Tous les artisans plombiers de l'Aisne vont se prendre des contrôles fiscaux.
Ils peuvent chercher parce que moi sur les réseaux sociaux, j'existe pas, j'ai pas de réseaux sociaux, ni mes enfants, ni ma femme. Alors moi qui cherche, ça m'arrange, en même temps qu'ils vont chercher chez les autres, ils vont pas venir chercher chez moi.
On le disait tout à l'heure, il y a Google Maps qu'ils peuvent utiliser maintenant, et puis il y a le voisinage.
Oui, mais sa piscine est couverte, donc ça ne se voit pas, il n'y a pas de carré bleu.
Ouais, mais il y a le voisinage aussi.
Après, moi, le voisinage, j'habite dans le trou du cul du monde, mon premier voisin, il est à 2 km.
On va donner encore plus d'infos, comme ça, ils vont vite vous retrouver.
Ma piscine, elle n'existe pas sur Google Maps, elle ne peut pas, parce qu'elle est couverte dans un
garage. Ouais.
Mais vous avez fait ça pour. Mais vous l'avez couverte pour ça.
C'est marrant de se vanter de frauder le fisc.
Bon, bah écoute.
Bah un peu quand même.
Ah ouais, mais on est en a marre, on passe notre vie à payer, nous, pour l'État et tout ça, et puis on fait quoi? Ils donnent l'argent à tout le monde, donc à un moment donné, c'est bon, il faut arrêter de taxer les gens.
Ouais, enfin, ils donnent l'argent aussi aux hôpitaux, aux autoroutes, aux écoles, aux lycées.
Ça sert quand même les impôts,
Maurice. Ça se voit qu'ils les donnent vraiment aux hôpitaux, parce que vu le nombre de grèves qu'ils font à chaque fois, tout ça.
Bon, ok, Maurice, je vois qu'on n'arrive pas.
Écoute, moi je vais essayer de frauder le fisc aussi, hein, si on peut venir comme ça et dire que c'est bien.
Toi, ça se verra. Merci, Maurice, d'avoir été avec nous.
Un peu curieux comme démarche, mais
bon. Non, mais la combine de Maurice, donc pour pas se faire avoir par le fisc, c'est d'avoir une piscine donc couverte. Donc,
il a fait une piscine dans son garage. J'espère que son garage est grand, parce que sinon la piscine est
toute petite. Je trouve qu'il a donné beaucoup d'indices.
Oui, une piscine, si t'es pas dehors, ça sert à quoi?
Bon, écoutez, bah oui, enfin, dans l'Aisne, il fait pas non plus, il fait pas beau, enfin, c'est pas le Var non plus. Donc, il vaut mieux que ce soit couvert, vous voyez, dans l'Aisne. Donc, voilà. Bon, bah, merci Maurice, en tout cas, d'avoir été avec nous. Stéphane, on s'appelle de Carcassonne.
Si c'est à l'intérieur, il dirait que c'est une grande baignoire.
Tais-toi. On a Stéphane, qui est cadre, et donc à Carcassonne. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, est-ce que vous seriez d'accord pour que le fisc, de toute façon, il ne demande pas votre accord d'ailleurs, mais vienne un peu stalker vos réseaux sociaux?
Alors, bon, pour le coup, moi, j'ai aucun réseau social.
Ah bon, non,
mais c'est pas bon, caché de quoi que ce soit, mais je déteste ça, voilà, depuis la création, je ne supporte pas ça. Mais pour le coup, je suis vraiment contre l'utilisation du fisc de moyens détournés. Enfin, c'est-à-dire, ils doivent utiliser des moyens honnêtes.
C'est pas un moyen malhonnête, hein.
Ah ben si, utiliser un faux compte, pardon, c'est se cacher.
Mais en fait, c'est ce que vous postez. En fait, là, vous n'avez pas de réseaux sociaux, Stéphane. Mais enfin, faut quand même être un peu idiot. Moi, si on m'offrait une rivière de diamants, parce que je m'en fous, je ne porte pas de bijoux. Mais enfin, j'éviterais de me prendre en photo avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
oui,
après,
sûr,
c'est d'après, c'est aussi d'ailleurs. Le bon sens. J'ai les gens qui font étalage de leur richesse et qui payent pas d'impôts. Quelque part, je veux dire que leur bêtise soit sanctionnée. Bon,
en tout cas, à travers ces témoignages, le consentement à l'impôt, c'est pas gagné quand même.
Allez-y Stéphane.
Je ne sais pas si autour de vous, vous avez déjà subi des contrôles fiscaux. Moi, je travaille dans une entreprise. Là, en ce moment, on subit un contrôle qui va bien se passer parce que nous, ça, on n'a rien à cacher, tout va bien. Mais il y a des méthodes, c'est-à-dire on envoie un courrier recommandé avec un de réception. On dit vous allez être contrôlé, voilà comment ça va se passer. La personne vient, se présente, explique et fait son enquête. Et croyez-moi, si elle a quelque chose à trouver, elle le trouvera. Il n'y a aucun problème. Maintenant, utilisez.
Mais là, ça va plus vite.
Surtout, ça permet de savoir chez qui on va faire des contrôles fiscaux.
Peut-être que ça peut permettre de cibler. Je viens comprendre qu'il y ait des doutes, mais vous savez, moi, ça m'agace quand même sur le fond. Vous savez, c'est la même chose quand vous avez les gendarmes qui sont cachés derrière un bosquet avec un radar, quoi. On voyait pas ça il y a 10-15 ans. C'est pas possible.
On l'a toujours fait.
Le gendarme, s'il est caché derrière un bosquet avec son radar, mais que vous respectez les limites, en fait, il vous arrivera rien, Stéphane.
Le problème, c'est ceux qui ne prendra personne avec son radar.
Celui qui va être flashé, c'est celui qui ne respecte pas les limites. Celui qui va être épinglé par le fisc, c'est celui qui n'a pas payé ses impôts.
On est d'accord.
Encore une fois, celui qui est honnête et qui respecte la loi, il est pas épinglé.
Avec des raisonnements comme ça, on justifie.
Pour les gendarmes, c'est un mauvais exemple, mais bon, par exemple, pas loin de chez moi, il y a ce qu'ils appellent un pack, le piège à con, c'est-à-dire la belle ligne droite magnifique avec jamais personne qui roule et ils se cachent là.
Ah bah oui, mais c'est toujours comme ça, parce que l'État n'a plus d'argent, parce que les gens fraudent le fisc.
Si vous savez où ils se cachent, c'est bien.
C'est malhonnête. Est-ce que c'est malhonnête de leur part? Est-ce que les moyens, est-ce que le problème, c'est pas qu'il manque de moyens à la justice ou au contrôleur ou à tout ce genre de choses, mais utiliser des méthodes entre guillemets de voyous.
C'est de la ruse.
Voilà, de la ruse. Ouais, de la ruse. Moi, pour moi, c'est pas le rôle des forces de l'ordre. Voilà.
Alors, on va demander à Raphaël Grabli ce qu'il en pense. C'est de la ruse pour vous, Raphaël? Ou c'est du pragmatisme?
Moi, je trouve pas que ce soit de la ruse. En fait, je suis toujours assez étonné qu'on trouve intrusif d'aller simplement regarder ce qui est public, c'est-à-dire ce qu'on va mettre en public à littéralement plusieurs milliards d'internautes qui pourront aller voir nos photos, et trouver pas intrusif. Bah, le fisc, quand il vient nous faire un contrôle fiscal, je suis désolé, on lui sort ses factures. Moi, il y a quelques années, il se trouve que j'étais pas en France, j'ai pas déclaré ma redevance télé puisque j'avais pas de télé. Le fisc m'a dit non, parce qu'on a demandé à Canal+, or Canal+ nous a dit qu'ils avaient un abonnement chez eux. Alors je leur ai gentiment expliqué que aujourd'hui on pouvait avoir un abonnement sans avoir de télé puisqu'on pouvait regarder Canal+ sur un ordinateur. Mais ils ont quand même été demandés à Canal+. Moi, je trouve ça en soi, d'ailleurs, je suis pas forcément contre, c'est logique, mais je vois pas en quoi ça c'est pas plus intrusif que d'aller simplement voir une photo, une vidéo ou une petite annonce que je mets sur le Bon Coin et qui est visible par tout le monde. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que quand ils mettent quelque chose en ligne sur les réseaux sociaux, une petite annonce avec leur nom, c'est public. Donc, c'est forcément moins intrusif que d'autres pratiques qui sont en œuvre depuis des années et des années. C'est pas plus intrusif. Après, on peut être con, je comprends. Mais en tout cas, on regarde ce qui est public sur les réseaux sociaux
en ligne. Donc c'est pas une ruse. C'est simplement c'est comme se balader dans la rue en fait. C'est comme si un policier se baladait dans la rue. On le reproche. C'est comme si je reprochais à un policier de me regarder dans la rue finalement. Donc juridiquement, en tout cas, alors c'est évidemment encadré par la CNIL, mais on va dire que c'est pour faire simple, c'est quand même assez soft. Il n'est pas question d'aller ajouter quelqu'un en ami, d'essayer de discuter avec lui pour voir s'il n'a pas quelque chose à cacher, etc. Non, on regarde simplement ce qu'on a partagé en public.
J'ai l'impression que ça gêne quand même le rendez-vous.
On a compte fermé d'ailleurs. C'est pas, oui. D'ailleurs, si je suis sur Instagram, Facebook, que j'ai compte fermé, c'est-à-dire qu'il faut être ami avec moi pour accéder à mes photos, je suis pas concerné. Hein. C'est pas du tout c'est pas ça qui va être regardé.
Ouais,
qui va être regardé, c'est simplement
les photos publiques.
On va dire le big data. Vous vous doutez bien que, les agents du fisc, ils vont pas aller parler avec les 40 millions d'internautes français sur Facebook.
Non mais c'est sûr.
Ils ont pas le temps. Ce serait une très mauvaise méthode.
Et Laurent Dandrieu n'a pas du tout envie d'en reparler en plus. Hein.
Non, mais moi je voudrais revenir sur cette question que Daniel a soulevée du consentement à l'impôt. Daniel a dit le consentement à l'impôt c'est pas gagné. Et en fait, moi du coup, je voulais réagir à ce que disait Maurice tout à l'heure en disant qu'on lui disait oui, mais les impôts c'est quand même utile parce que petite route et tout ça. Et il dit oui, mais l'État jette notre argent par la fenêtre. Et en fait, je pense que il y a ce sentiment aujourd'hui qui est très répandu dans la population française et qui n'est pas infondé,
de savoir
que par ailleurs notre argent est utilisé à tort et à travers et que donc le consentement à l'impôt c'est un vrai problème.
Oui, je sais. Oui.
Alors merci en tout cas Raphaël Grably d'avoir été avec nous, rédacteur en chef BFM Tech, et merci à Stéphane et à Maurice d'avoir réagi sur ce débat. On vous a posé la question sur le compte Twitter de l'émission. Le fisc veut avoir accès aux réseaux sociaux des contribuables. Logique ou choquant?
C'est un scandale. Scandale pour 77% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Ça c'est le mot fisc.
Fiscal est quand même un sport national en France.
On peut payer d'impôts.
Il faut le dire, la fraude fiscale est un sport national.
Allez, dans un instant, Johanna Chabas, RMC s'engage pour vous. Et Johanna qui essaiera de sauver un village qui est infesté de mouches depuis 10 ans à cause d'un élevage de poules. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h30 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de vous aider. Voici RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Johanna Chabas, vous n'allez pas aider une seule personne, mais un village tout entier qui vit une énorme galère.
Ah bah c'est un enfer parce qu'ils sont envahis de mouches. Ça peut prêter à sourire, mais vraiment, c'est horrible pour vous. Pour eux, c'est des milliers de mouches qui polluent la vie des riverains. On voit les images sur RMC Story. Florence, par exemple, elle s'est installée dans le village il y a 10 ans. Elle espérait vivre un paradis sur Terre dans cette campagne. En fait, elle était loin d'imaginer de devoir partager son quotidien avec ces insectes.
On en voit apparaître 2-3, et puis 10, et puis 100. Donc, on ne sait jamais, en fait, quand ça commence à arriver, jusqu'où ça va aller. La semaine dernière, c'était vous êtes dans un espèce de nuage de mouches qui bourdonnent et qui se posent sur vous partout, sur le visage, les cheveux, etc. Vous ne pouvez pas avoir 2 secondes de tranquillité.
Et donc dans ce village de Neuvy-en-Sulias, dans le Loiret, les mouches arrivent par vagues pendant 2 ou 3 semaines. Et tout le village est touché, parfois même les communes aux alentours, à tel point que les habitants ont monté une association présidée par Didier.
Des gens qui habitent ici depuis toujours, hein, qui disent « nos enfants ne viennent plus ». Ils ont pris la décision de ne plus venir du tout avec leur bébé, parce que le bébé est couvert de mouches quand il l'installe sur un matelas. Puis on a une dépréciation foncière générale. C'est-à-dire que devient la paisible commune entre Loire et Sologne. Hein.
C'est vrai qu'on voyait du papier tue-mouche pour ceux qui ne regardent pas sur RMC Story, effectivement, à la fête de ce monsieur. Mais Amélie, elles viennent d'où ces mouches? Johanna, pardon.
Moi, c'est Johanna. Mais donc, ces mouches, elles viennent d'un gigantesque élevage intensif de poules pondeuses, 220 000 volailles qui vivent en cage à 1 km du village et qui produisent donc des tonnes d'œufs, mais aussi de fientes tous les jours. Et donc ces fientes sont propices à la prolifération des larves de mouches. Les habitants ont évidemment alerté la préfecture du Loiret qui, dès 2016, avait demandé à l'élevage de prendre des mesures, sans succès. Donc le 8 juillet dernier, la préfète a pris un arrêté obligeant l'entreprise à désinfecter et désinsectiser, je vais y arriver, tous ses équipements sous peine de sanctions.
Oui, alors on l'a quand même bien vu, Johanna, sur les images des RMC Story, ça n'a pas suffi, hein, visiblement.
Non, clairement pas. Et c'est pour ça qu'on a recontacté la préfecture. Elle nous assure pourtant que des mesures ont bien été prises, qu'elles ont été efficaces cet été, mais que l'éleveur n'a pas pu poursuivre son action lors de la pénurie de carburant. Pour faire court, on n'avait pas tout compris au début, oui, mais voilà, on voit pas trop le lien au début.
Hein.
Mais en fait, pour faire court, l'éleveur n'avait pas assez d'essence pour évacuer toutes les fientes. En gros, il ne pouvait pas à la fois s'occuper de ses poules et à la fois avoir de l'essence dans ses camions pour évacuer les fientes. Ah. Donc, la prolifération de mouches a repris. La préfecture a fait un rappel à l'exploitant qui a jusqu'au mois de mars pour régler le problème s'il veut éviter.
Dis donc, c'est dans 4 mois.
Oui, mais c'est la durée de l'arrêté. C'est la durée de l'arrêté. Mais en tout cas, nous, on a contacté du coup l'exploitant qui nous assure que voilà, il a repris le site qu'en février dernier et il nous assure avoir mis en place un protocole pour le traitement des fientes et que bah du coup tout va se remettre en ordre tranquillement.
Donc le problème va être réglé.
C'est ce que nous promet l'exploitant.
Incroyable.
Évidemment, nous on va vérifier.
Qu'est-ce qu'il y a, Daniel?
Bah ça me rend fou. Moi ça me rendrait fou à la place des.
Ah, moi aussi.
Ah, bah, incroyable.
Non, parce que
Après je sais pas si on a par les temps qui courent, je sais pas si on a le droit de tuer toutes ces mouches. On pourrait se prendre un procès.
Bah, on les tue pas, on ramasse les fientes.
Émeric
Caron veut te coller un procès au cul.
Ce qui entraîne les mouches, c'est-à-dire les fientes.
Si tu ramasses les fientes de poules, bah, t'as plus de mouches. Je sais pas où elles vont aller d'ailleurs.
Ça devient de l'engrais. Les fientes de poules deviennent de l'engrais. Pour d'autres agriculteurs.
Mais les mouches partiront ailleurs.
Voilà.
Et puis on aidera d'autres gens.
Donc il y en aura moins.
Peut-être. Et puis elles mourront. Je ne sais pas quelle est la durée de vie d'une mouche.
Trois semaines. J'ai pris plein de choses avec le sujet. Trois semaines.
Ah, bah, franchement, c'est faisable. Oui, c'est faisable. On parle de quoi demain, Johanna?
Eh bien, alors demain, c'est que je me rappelle bien. On va vous parler d'un village qui recherche désespérément un médecin. Ça fait plus d'un an qu'il n'y a plus de médecin.
Bon, on va lui mettre un jet privé à dispo pour qu'il vienne.
Ben voilà, non, ça c'est une Auvergne-Dijon. Voilà. Mais écoutez, super, Johanna, on se retrouve demain, Estelle Midi, tous les jours, vers 14h30, dans c'est pas Estelle Midi, RMC pour vous. Je vais le faire. RMC s'engage pour vous tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi. Voilà, dans un instant, vous êtes nommé. Pourquoi est-ce que je suis un peu émue? C'est parce que dans un instant, on va peut-être ouvrir le coffre RMC. Ah. Et ça me fait toujours quelque chose. Vous voyez, ça voilà. Beaucoup, beaucoup d'émotions et donc j'en perds mes mots. Le coffre RMC, c'est dans un instant. A tout de suite avec les Immanquables.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi et dans cette dernière partie, eh bien, depuis 10 jours déjà, nous jouons au coffre RMC. C'est parti.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC ?
Le coffre RMC.
Le coffre RMC, Rémi, c'est une expérience unique et qui peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup de cadeaux.
Oui, parce que celui ou celle qui sera sélectionné, qui a été sélectionné, sera avec nous dans un instant et a d'ores et déjà gagné un téléphone Samsung Galaxy M23 et le rétro-projecteur portable qui va permettre de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde.
Mais oui.
Où que vous soyez, et à ce moment-là, eh bien, la personne qui est sélectionnée va avoir le choix. Soit elle garde ce cadeau, soit elle y renonce, mais elle ouvre le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une TV, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar.
Et nous jouons avec Ronan qui nous appelle du Nord. Bonjour Ronan.
Bonjour Estelle.
Bah, Ronan, on veut du panache. Là, hein.
Ah ouais. Non mais Ronan, déjà, vous avez gagné deux fantastiques cadeaux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, je suis très joueur.
Le panache.
Après, vous savez, Ronan, qu'on a fait gagner la totale hier dans Estelle Midi.
Je sais, mais je prends pour le Estelle.
D'accord. Donc là vous, on ouvre le coffre?
Oui.
Pas de regret?
Pas de regret.
Ok. Bah écoutez, on y va, hein, là, Ronan, on y va. Je fais le code 1205.
Ah, pourquoi le donner, le code?
Pourquoi? Qui va aller nous cambrioler? Il y a une boîte en carton à l'intérieur. Donc, Ronan, j'ai devant moi une boîte en carton marron, pour être tout à fait précise. Ouais, elle est là, la boîte.
Je pense qu'il n'y a pas une télé dedans.
Non, il n'y a pas de télé dedans, évidemment, mais il y a un bon.
Ça peut être écrit sur un papier, c'est un bon, quoi.
Et dans cette boîte, Ronan, j'ai des AirPods.
Aïe.
Très bien.
Boulette.
Très bien.
Mais oui, vous allez pouvoir écouter de la musique et
deux fois de suite que je viens et que j'assiste à ça, là, c'est triste.
Je vous ai dit, Ronan, on avait fait gagner hier. Bon, c'est vrai qu'on en aurait pas
parlé. C'est un vrai indice.
Mais ouais, je comprends. Après, c'est un beau cadeau.
Tout à fait, tout à fait.
Et puis nous, on était contents de vous avoir avec nous, Ronan. Donc, merci d'avoir joué.
Merci beaucoup.
Au coffret RMC. Et on vous envoie très vite ces AirPods et peut-être la totale pourra être gagnée dans le Super Moscato Show.
Exactement, parce que c'est comme ça tout au long de la journée sur RMC. Vous continuez à vous inscrire en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et nous allons démarrer, Rémi, oh, ça c'est extraordinaire, la supercherie du jour.
En tout cas, supercherie du jour supposée. Je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux pour voir les images. On a regardé ce matin avec Estelle. C'est vrai que c'est assez surprenant. À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce sera dimanche, de nombreuses vidéos tournent sur les réseaux sociaux montrant de longs cortèges de fans, a priori, indiens. En tout cas, c'est ce qui se dit, encourageant la France, le Brésil ou encore l'Angleterre, mais présentés comme étant des supporters de ces équipes. Si la presse britannique affirme que ces derniers, ces supporters ont été payés, qu'ils n'ont en rien à voir avec de vrais supporters anglais, britanniques ou français, rien encore ne permet aujourd'hui de le confirmer.
Il y a beaucoup d'ambiance à 5 jours d'une Coupe du Monde.
C'est
quoi.
Ça. En revanche, il est certain, ça c'est sur les journalistes qui sont déjà sur place, qu'ils disent que très peu en fait de supporters étrangers sont arrivés au Qatar. Donc qui sont ces gens?
C'est normal. Pourquoi tu veux qu'ils arrivent avant?
C'est pour ça que c'est pas les vrais supporters.
Ils s'entraînent.
Mais c'est dramatique. Non mais Daniel.
Pourquoi c'est dramatique?
Parce que c'est des faux supporters qu'on a payés, mais vous imaginez.
Il y a des cannes où en Afrique on a rempli les stades en mettant soit des militaires, soit des gens à qui on payait la place. En Corée, pendant la Coupe du Monde 2002, on a vu un peu la même chose. À chaque fois,
il n'y a pas d'engouement du tout.
À chaque fois, je trouve ça. Il y a pas mal d'endroits où les stades sur ces grandes compétitions, quand c'est pas l'équipe locale qui joue, c'est très dur de remplir les stades. Moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule. On essaye de remplir le stade. On l'a vu par ailleurs, ce genre de choses. On l'a vu. C'est pas la première fois qu'on le voit.
C'est vrai que là, quand on voit les images, et puis on sent bien que, c'est pas des vrais supporters, quoi. Ils sont pas formés à ça. On voit bien qu'il y a trop de
choses. En même temps, si on me paye pour en mettre un autre maillot pour aller voir un match et dire, tiens, fais semblant d'être supporter, machin.
Après, j'ai dit payer, en fait, en vrai, j'en sais rien.
On sait pas si ça a été payé. Ce que les journalistes ont regardé, c'est que les instruments utilisés pour mettre de l'ambiance sont des instruments très locaux. Les chants sont aussi très locaux.
On fera jamais pire que 2010 les Vuvuzela.
C'est pas faux.
À part la performance de l'équipe de France, on fera jamais rien de pire que ce mondial là.
On l'a entendu longtemps, si vous voulez dire.
J'ai gardé la mienne, moi.
Ah si, nous on a regardé jusqu'à la finale, Estelle. Toi tu t'es peut-être arrêté au premier tour, mais nous on est allé au bout.
J'ai gardé la Vuvuzela, moi.
En même temps, tout est bidon dans cette Coupe du Monde. On organise ça dans un pays qui existe à peine. Enfin bon,
me lancez pas sur ce débat là parce que je l'ai tellement fait.
Alors ne le faites plus. Il y a un autre débat qui va vous plaire. Le refus du jour.
Le capitaine de l'équipe de France de foot, présent en conférence de presse hier avant de s'envoler pour la Coupe du Monde au Qatar, a indiqué qu'il ne porterait pas le brassard aux couleurs LGBT pendant le mondial, par respect pour la culture du pays. C'est ce que dit Hugo Lloris. Hugo Lloris, qui est d'ailleurs resté assez évasif, mais qui annonce que quelque chose sera quand même fait dans le cadre de cette Coupe du Monde par les Bleus. Alors c'est peut-être ça. À l'instant, par un communiqué, on apprend que les joueurs de l'équipe de France vont faire des dons, des dons monétaires, à des ONG qui militent en faveur des droits humains.
Alors qu'on a fait beaucoup plus du côté des États-Unis.
Parce qu'ils ont l'équipe nationale américaine a choisi de prendre comme étendard le drapeau LGBT.
Voilà, exactement. Et nous, on ne fait rien. Daniel Riolo, vous êtes étonné par ces propos d'Hugo Lloris qui sont franchement exactement les mêmes que ceux de Noël Le Graët il y a deux jours, quand même.
Il se met en phase avec le président de sa fédé. Vous savez ce que je pense du président de la fédé. Donc, qu'est-ce que.
C'est Hugo Lloris. Mais c'est un grand garçon.
Un grand garçon, mais qui respecte son président de fédé. C'est l'exemple. Tout à l'heure, pour un autre débat, je disais quand tu veux être respecté, il faut être respectable. Notre président de la fédé n'est pas respectable. Après, il y a une phrase prononcée par Hugo Lloris qu'il faut quand même retenir. C'est quand je vais dans un pays, je respecte les traditions et la culture de ce pays. Je pense que ça aussi, ça doit être entendu et ça doit être souligné. Parce que si on se met à condamner toutes les cultures de tous les pays, on va en condamner pas mal des.
Excuse-moi, l'homophobie n'est pas une culture ou une tradition.
Mais
l'homophobie, c'est un délit.
Non mais moi, Thierry,
c'est une valeur humaine.
Moi, Thierry, tu prêches un convaincu sur ce dossier. Je veux juste et j'attends que par la suite, on fasse ça à chaque fois.
Moi, la question que je voudrais poser en tant que spécialiste, c'est si Hugo Lloris avait décidé de dire, je suis pas d'accord avec mon président de Fédé, je porterai ce truc.
Mais moi, j'aurais aimé qu'il fasse ça.
Qu'est-ce qu'il aurait risqué en vrai?
Le président de Fédé ne lui a pas interdit de le porter.
Mais en plus,
il aurait rien risqué.
Si par courage il eut fait cette démarche,
rien.
Je pense qu'il risque rien.
Donc c'est un manque de courage.
Encore faut-il que ça entre en phase avec ses convictions. Je te rappellerai juste que dans la culture.
Et avec ses convictions, ses coéquipiers.
Exactement. Je te rappellerai quand même que dans la culture du football et du footballeur, l'homophobie, c'est pas tellement un problème. On m'avait raconté il y a quelques années une personne qui cherchait à réaliser un clip contre l'homophobie, avait contacté tous les footballeurs, aucun
On avait répondu présent. On a eu Giroud qui a, je crois, posé qui effectivement a fait un pas. Quelques footballeurs se sont illustrés sur cette question, mais la grande majorité, non. Je rappelle également ce qui s'est passé au moment où le joueur du PSG Gay l'année dernière a refusé de porter un maillot contre l'homophobie au Parc des Princes. Il y a le capitaine.
Alors là, capitaine qui a refusé aussi de.
Aux Pays-Bas récemment, le capitaine d'une équipe Feyenoord, je crois, ou le PSV, a refusé de porter un brassard pour lutter contre l'homophobie. C'est quelque chose qui, dans le football, est un vrai problème, mais il faut peut-être dire un vrai problème quand il s'agit d'un joueur qui a telle ou telle religion. Mais ça, c'est des choses qui sont très difficiles à dire, Thierry, tu vois.
Laurent Landrieux, est-ce que vous, ça vous choque voilà, que Hugo Lloris ne fasse pas un geste?
Moi, ce que je trouve déjà, c'est qu'un engagement n'est qu'un vrai engagement que si vous avez la liberté aussi de ne pas le faire. C'est, si c'est des engagements automatiques qu'on fait parce que tout le monde le fait et que dès que vous le faites pas, tout le monde vous tape dessus, c'est plus un engagement, c'est juste du politiquement correct. Donc il a la liberté de le faire. Il a la liberté de le faire ou de pas le faire. Et là, il a choisi de pas le faire. C'est son choix et je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait le choix de le faire ou pas. La deuxième chose, c'est que moi je trouve que c'est pas mal qu'on rompe enfin avec cette habitude de prendre les équipes sportives comme étendard de toute tas de causes sociétales qui n'ont rien à voir avec le sport.
Après, le fait qu'elle donne de l'argent, qu'elle verse de l'argent à des ONG, saluons l'initiative.
Et je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi. C'est-à-dire que soit on considère que le Qatar est un pays épouvantable qui a des pratiques.
Ah, voilà, j'aimerais bien, Laurent, qu'on dise. Et on y va. Soit on fait la liste des pays pas fréquentables une bonne fois pour toutes. Et on assume que des pays avec lesquels on a des relations économiques, commerciales, diplomatiques depuis 30 ans, d'un coup, on décide ce pays est banni. Mais alors je veux bien l'entendre ça quand ça va arriver.
Mais laisse-le finir, sinon tu n'entendras pas.
Dire c'est un pays épouvantable, j'y vais quand même, mais je mets un petit brassard symbolique, je trouve ça c'est des hypocrisies pures.
Exactement. C'est pour ça que je voulais pas faire ce débat parce que ça me tend un petit peu.
Oui, mais ça vous tend, mais si vous écoutiez les autres. Bon.
Tu vois, je l'ai fait.
Verser de l'argent, c'est de se donner bonne conscience. Hein.
Et alors, c'est déjà ça.
Oui, mais enfin, ça c'est comme
bien la bonne conscience.
Excuse-moi, c'est comme les partis politiques qui payent les amendes pour refuser de faire la parité dans les postes éligibles. C'est pas bien. Voilà, c'est s'acheter bonne conscience.
L'interdiction du jour.
La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher ne pourra pas s'occuper de sujets liés à trois sociétés, y compris l'entreprise pétrolière Perenco, dont son père a été dirigeant. C'est ce que précise un décret paru aujourd'hui au Journal officiel, une décision qui intervient une semaine après qu'une enquête du média disclose sur des soupçons de conflit d'intérêts.
C'est gênant, non, Laurent Landrieux?
Oui, je pense qu'effectivement on n'est pas assez regardant sur ce genre de conflit. Il y a pas assez de, les règles sont trop floues, sont trop souvent contournées. Moi, je suis très surpris, notamment de qu'on s'intéresse pas du tout à ce qu'ils deviennent après être ministre. C'est-à-dire que vous découvrez que quelqu'un était ministre dans un domaine, il est embauché une semaine après dans une entreprise du
vous
secteur.
Pensez à qui?
J'ai pas des cas précis, mais ça arrive souvent. Et que, comme pantoufle, après ne plus être ministre, mais sauf qu'en fait, quand il était ministre, il savait déjà qu'il allait être dans cette boîte, et tout le monde s'en fout. Et en fait, il y a plein de conflits d'intérêts qu'on ne voit pas, et je pense qu'en France, on est très laxiste sur le sujet.
Après, c'est son père, c'est pas elle, hein, en fait.
Oui. Hein. Oui, mais quand même.
Mais justement, le problème de la haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est qu'elle se limite, et ça a été la volonté du législateur, à la personne, et ni à ses enfants, ni à ses parents. Quelquefois, ça pourrait être pas mal d'élargir.
Enfin, déjà qu'on trouve personne pour devenir ministre. Je vous rappelle du casse-tête d'Emmanuel Macron pour faire le gouvernement.
Pour éviter les conflits d'intérêts. Juste pour éviter les conflits d'intérêts.
Mais attends, t'es pas responsable de tes parents, de tes
enfants.
Après, tu peux plus rien faire.
Il y a un gros conflit d'intérêts en équipe de France, dans celle qui va au Qatar. Mais non, c'est juste comme ça, pardon.
Quoi?
Il y a un gros conflit d'intérêts à la 3S, mais
je laisse finir,
si vous voulez un exemple de conflit d'intérêts,
il y a aussi des fonctionnaires, la responsable par exemple de la politique qui s'occupe des législations en ce qui concerne la pêche au thon a été débauchée par le lobby du thon à Bruxelles, et donc en une semaine elle est partie avec tous ses dossiers pour aider le lobby du thon. On ne fait pas assez,
je trouve ça scandaleux.
Monsieur Landrieux, on n'est pas assez vigilant sur les conflits d'intérêts dans notre société démocratique, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays démocratiques.
Enfin, normalement, les ministres, une fois qu'ils quittent leur poste, ils doivent demander, à ce qu'on les autorise à exercer de nouvelles fonctions. Donc,
oui, mais sauf qu'on les autorise toujours. Donc,
ça, c'est
ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est un petit peu compliqué, parce qu'après, ils peuvent plus du tout travailler, Laurent, ou dans des secteurs.
Leur corps d'État, ils sont payés, donc de toute façon.
Oui, mais attends.
Oui, mais si le gars, il a envie de mener une carrière dans le privé, c'est un peu.
Ils sont pas tous aux fonctionnaires.
Il va dans un autre domaine.
Que ça pose au moins question quand
il
même.
Il va dans un autre domaine que celui où il a eu des intérêts.
Parce que sinon, il profite d'eux. J'entends bien.
Et souvent, c'est quand même. Il y a des gens qui deviennent ministres, ils quittent des postes très bien rémunérés pour devenir ministre. Ils gagnent moins. Exactement. Ils sont ministres pendant 2 ou 3 ans.
Et après,
ils
peuvent pas y retourner dans le secteur.
Et après, ils peuvent plus faire le job pour lequel ils étaient avant. C'est pas possible.
Pleurer sur le salaire des ministres.
Non, mais d'accord, mais enfin,
d'accord, mais le gars, tu peux pas lui empêcher de poursuivre sa vie comme il a envie.
Oui, mais pas dans le domaine où
l'entreprise va profiter de son expertise justement parce qu'il aura été dans la fonction qui était la sienne.
Sauf qu'autrefois,
je ne trouve pas que ce soit si net que ça. Votre position, elle est quand même un peu tranchée.
Une culture de l'État qui est en train de disparaître. Et une culture du service public qui est en train de mourir. Et ça, c'est d'une tristesse absolue.
Vous parliez de quoi en conflit d'intérêts? On va terminer là-dessus, Daniel, en équipe de France.
L'intendant de l'équipe de France, celui qui est au plus proche des Bleus en permanence, est également employé d'une société d'agents. Et il fallait bien que ça arrive, et c'est arrivé alors qu'ils avaient juré les grands dieux que ça n'arriverait jamais. Un joueur, Jordan Veretout en l'occurrence, a été sélectionné en équipe de France alors qu'il y a quelques mois,
joueur de l'OM,
il est entré dans l'écurie de cet agent en question. Voilà. Pour lequel est employé cet intendant qui bosse auprès des Bleus. Donc on a un intendant des Bleus, quelqu'un qui travaille pour l'équipe de France, qui est en même temps salarié d'une boîte d'agents.
Donc il aurait pu influencer sur la décision.
C'est ça. C'est le propre du conflit d'intérêts, c'est qu'on est en plein conflit d'intérêts. Moi, je suis pas en train de dire ça a eu lieu, mais comme par hasard, il a fallu que ça arrive. Moi, j'attendais la liste des Bleus tomber avec impatience.
Ah, vous voyez.
Je me dis, est-ce que, parce qu'en plus, c'est pas un joueur qui est totalement incontestable, On n'est pas en train de parler de Benzema Mbappé, On est en train de parler d'un joueur où forcément
de
on se dit, oh, si c'est pas lui, ça peut être un autre. Ça peut être Vincent Moscato, Vraiment, ça peut, voilà. Ouais. Non, quand même pas, parce qu'il joue pas assez bien au foot.
Eh ben, être sympa, cette Coupe du Monde.
Mais forcément, là, quand son nom est apparu, on s'est dit, ah, tiens, c'est bien le gars qui, il y a un an, a changé d'agent pour aller avec,
Bah, cela dit, il a bien fait, il fait la Coupe du Monde.
Ah, moi j'ai pas dit que c'était grâce à ça qu'il faisait la Coupe du Monde.
Ah non, mais c'est parce
j'ai
que
dit que
mais...
ça peut.
Ok, ça
c'est
peut.
Un vrai conflit d'intérêts. Voilà.
Bon, écoutez, on va terminer sur cette
visiblement
de sport.
Visiblement. Hein alors si, alors oui. Pendant longtemps ça l'intéressait que nous à l'after, on n'arrêtait pas de le dire.
Oui.
Mais il y a 2 jours, article dans Le Monde.
Ah.
Enfin.
Mais vous
enfin,
faites l'actu, c'est incroyable.
Enfin, mais il a fallu du temps quand même pour
lancer d'alerte, Daniel.
Exactement.
Enfin, pour que. Non, mais c'était pas très compliqué de voir que l'intendant bossait dans une société d'agents. Tout le monde le savait.
Il parle trop, mais c'est un bon lanceur d'alerte.
Vincent Moscato est parmi nous, le super Moscato Show, Vincent.
Magouille.
Mais qu'est-ce que c'est que cette jolie tenue là, un petit pull blanc là, on est bien là, dis donc.
Ah, elle a fait sa conquête.
Aïe 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 aïe.
Comment ça va? Vous allez bien?
Très bien, ça va bien.
T'es en forme, sérieux?
Ah bah oui, oui. Ah bah on nous sort des dossiers, c'est le Watergate.
Voilà, c'est dingue.
Ah mais c'est incroyable. Attends, mais...
Là, c'est les diamants... Je vais te dire, Veretout, les diamants de Bokassa, c'est rien à côté. Hein. C'était autre... Estelle, on n'a jamais été aussi proche de la Coupe du Monde. On se demandera si Karim Benzema sera prêt.
Je suis très inquiète.
Fais-moi benz dans ma vroom.
Oui.
Ou le contraire, fais-moi vroom dans ma benz.
Non, c'est... Oui, enfin,
oui ouais, c'est ça. Fais-moi zoom voilà. Dans ma benz.
Ah, c'est ça. C'est
ça.
Bon,
ouais, c'est vrai, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Moi.
Okay.
On vous dira tout sur les faux supporters du Qatar, là aussi.
Alors,
les Philippins qui ont construit les stades, maintenant, sont déguisés
on ne sait pas si.
Les mecs, les supporters allemands, les mecs, ils font 1m70, ils sont noirs, brins et tout. Ça me dit, c'est pas trop allemand.
On ne sait pas. Enfin, c'est vrai qu'on en a parlé
mais
nous
si,
aussi.
Si, on le sait. C'est des figurants.
Oui, c'est possible. Bon, alors ensuite.
Moi, je vous dis ce que j'en sais. Du rugby.
Ah.
Du rugby. Christophe Furios. Viré de Bordeaux.
Mais non.
Viré.
Il est furieux.
Incroyable.
Ah ouais, très curieux.
Mais je m'y attendais pas, moi.
Monsieur Moreau m'a appelé, il m'a dit il est tombé sur le cul, les bras lui en ont tombé.
Ah bah moi, je suis scotché.
Ah ouais, c'était dur, hein.
C'est dur.
Ouais. Et on parlera de FN, de la route du Rhum, avec toi, comme consultant. Bien entendu. Ça souffle dans les voiles. Oui.
Je suis très bon à Virtual Regatta. La voile virtuelle, mais attendez.
Ah ouais, c'est bien.
1800e, ouais, c'est énorme, bien. Sur 144 000.
C'est dur, ça. Ouais. Ça te permet de faire une transat?
Bon, allez, on y va.
Je vais
le super
déjà.
Moscato Show, bien, ouais. C'est tout de suite et nous on se retrouve demain dans STL midi 15h. Salut.
Ça va être une belle
RMC, 15h-18h, le super Moscato Show.